Voilà, alors la dernière fois, on a donc terminé l'histoire de Salomon dans le premier livre des rois. Et on ne va pas complètement quitter Salomon, parce qu'on va aborder, on va voir aujourd'hui hein, une partie de ses écrits qui sont dans la Bible et qui sont dans le livre des Proverbes. Et j'ai choisi le chapitre qui parle de la langue, qui parle de la langue, j'ai intitulé mon message « Du bon usage de la langue d'après le livre des Proverbes ». De Salomon, donc qui sont donc paroles de Dieu. Alors, est-ce que vous êtes plutôt du genre bavard ou plutôt réservé? Alors voilà, tous différents. Voilà. Est-ce que vos paroles reflètent vos pensées ou bien, enfin, êtes-vous de ceux qui disent moi je dis toujours ce que je pense? Ou bien est-ce que vos paroles dépassent vos pensées? Est-ce que vous parlez plus vite que vous ne réfléchissez? Et puis après vous dites, oh là là, excuse-moi, je ne pensais pas à ce que je te disais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, oui. Et la Bible a beaucoup à nous dire sur le bon usage de la langue, et notamment, bien sûr, le livre des Proverbes, écrit par Salomon, qui a beaucoup à dire non seulement sur le bon, mais le mauvais usage de la langue à éviter. Et bien ou mal utiliser notre langue, c'est une question de vie ou de mort. Pas loin, c'est pas moi qui le dis, c'est justement dans le livre des Proverbes, Proverbe 18, verset 21, que je vous lis. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Alors, c'est important de faire attention à ce que nous disons ou ce que nous ne disons pas et comment nous le disons. Donc, on va prendre le chapitre 10 du livre des Proverbes. Et le chapitre 10, pour situer le contexte, il fait suite à une description de ce qu'est la sagesse. Vous vous rappelez, Salomon avait demandé la sagesse à Dieu, et donc les chapitres 8 et 9 qui précèdent, décrivent ce qu'est la sagesse par opposition à la folie. Par opposition à la folie. Voilà, donc je vais lire dans Proverbe chapitre 10, je lirai tout le chapitre. Chaque proverbe, on pourrait faire un message sur chaque proverbe. En tout cas, regardons, je vous invite à faire attention au verset qui parle de notre langue, de la bouche, justement. Donc Proverbe chapitre 10. Je lirai tout le chapitre. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors mal acquis ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, mais la main des hommes actifs s'enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Le souvenir du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur accepte les commandements, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marchera en sécurité, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne des yeux est une cause de peine, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais le bâton est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Verset 14. Les sages tiennent la connaissance en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune du juste est une ville forte. La ruine des indigents, c'est leur pauvreté. Le gain du juste est pour la vie. Le revenu du méchant est pour le péché. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres fausses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants a peu de valeur. Les lèvres du juste conduisent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par manque de sens. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. La pratique de l'infamie est comme un jeu pour l'insensé, de même celle de la sagesse pour l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes, Dieu le donne. Quand passe le tourbillon, il n'y a plus de méchants, mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour ceux qui l'envoient. La crainte de l'Éternel prolonge les jours, mais les années des méchants seront abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui commettent l'injustice. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants ne demeureront pas dans le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste connaissent la faveur, ou la grâce dans d'autres traductions. La lèvre du juste connaissent la faveur, et la bouche des méchants la perversité. Donc amen, jusqu'ici, donc chapitre 10, la parole de Dieu, du livre des Proverbes. Donc j'ai intitulé ce message « Du bon usage de la parole » d'après le livre des Proverbes. Pourquoi faire un bon usage de la parole ? Parce que, eh bien, c'est ma phrase clé, parce que nos paroles et nos silences reflètent notre cœur. Nos paroles et nos silences reflètent ce qu'il y a dans notre cœur, c'est-à-dire notre personnalité, qui nous sommes vraiment. Et Jésus, il a bien souligné le lien étroit qu'il y a entre la langue et notre cœur. Voici ce qu'il dit dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 45. Et regardez le rapport entre le cœur et la langue. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses, de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La sagesse, la vraie sagesse, elle nous enseigne aussi bien à parler qu'à nous taire. Et elle nous enseigne à aller plus en profondeur pour identifier notre cœur, le cœur qui se cache derrière nos paroles et nos silences, pour mieux utiliser notre langue. Alors comment mieux utiliser notre langue ? C'est ce que je vous propose de voir dans trois points. J'ai articulé mon message en trois points. Mon premier, ça sera, on verra le cœur et la langue de l'insensé. Deuxièmement, nous verrons le cœur et la langue du sage. Et troisièmement, nous verrons la parole de Dieu au secours de notre cœur et de notre parole, de notre langue. Donc, prenons le bon commencement. Tout commence dans notre cœur. De quoi est rempli votre cœur ce matin ? Notre cœur, c'est notre moi caché, au plus profond de nous-mêmes. Personne ne le voit, sauf notre Créateur, sauf Dieu. Et lorsque nous parlons, eh bien, nous dévoilons qui nous sommes. Alors, soit nous parlons et nous dévoilons notre moi, soit nous le dissimulons davantage, notre moi, par nos silences, et aussi, on peut aussi, par nos paroles. Le verset 8 de ce chapitre est un proverbe qui met déjà en rapport le cœur avec la langue. Verset 8, je le relis. « Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. » Premièrement, donc, voyons le cœur, qu'est-ce qui caractérise le cœur et la langue de l'insensé. Et pour cela, eh bien, on va se pencher sur la sagesse, la vraie sagesse, celle que Dieu a donnée à Salomon. Pourquoi ? Parce que la vraie sagesse, c'est en Dieu qu'elle se trouve. C'est en Dieu qu'elle se trouve. La vraie sagesse, elle ne nous est pas innée, on ne la fabrique pas. Dieu nous la donne, si on la lui demande. Alors il nous faut la chercher, cette sagesse, comme Salomon. Salomon, au tout début de son règne, il a demandé à Dieu une chose excellente, il a demandé la sagesse pour gouverner ce peuple, le peuple de Dieu. Et donc la vraie sagesse, il faut la chercher et elle se reçoit, on ne la fabrique pas. Et n'en doutons pas, Dieu donne la sagesse à celui qui la lui demande, c'est pas moi qui le dis, c'est encore la parole de Dieu qui nous dit dans l'épître de Jacques, dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 1 verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Promesse, promesse de Dieu. Donc ne nous privons pas de la demander. Vous avez remarqué dans ce passage, il est beaucoup fait mention d'insensés, des insensés. Et selon la Bible, insensé veut dire fou. Fou, pas dans le sens de aliéné, mais fou dans le sens de vouloir mener sa vie sans Dieu. Ça, c'est la vraie folie. Et le cœur de l'insensé, eh bien, son gros problème, c'est qu'il ne prend pas le temps. Le cœur de l'insensé ne prend pas le temps ni de chercher, ni de recevoir la sagesse. L'insensé, il est pressé. Pourquoi est-ce qu'il est pressé? Et combien on se retrouve aujourd'hui dans notre monde, un autre monde qui va se faire tellement vite? Pourquoi? Bien parce qu'il veut tout, tout de suite. Là, tout de suite. Il est pressé de quoi faire? Déjà de s'enrichir rapidement, de s'enrichir facilement, d'avoir beaucoup d'argent, sans effort, si possible sans travailler. C'est un leurre. Le cœur de l'insensé, il est décrit dans ce passage, il est avide et il est paresseux. Il ne veut pas travailler. Et il a un outil pour s'enrichir. C'est quoi son outil? C'est sa langue, c'est sa bouche. C'est sa bouche dont il se sert pour arriver à ses fins. Alors que fait l'insensé? Eh bien, il va parler beaucoup, parfois sans réfléchir, parfois présomptueusement, pour donner l'impression qu'il sait tout, qu'il a réponse à tout. Alors que très souvent, c'est de la poudre aux yeux. Là encore, j'invente pas l'expression. La poudre aux yeux, regardez le verset 26. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Et n'est-ce pas qu'on est bien dans cette société où tout va très vite? On veut toujours aller toujours plus vite. L'intelligence artificielle veut être soi-disant à notre service, toujours gagner du temps. Mais attention, on est dans une société où tout va très vite, où les riches deviennent de plus en plus riches. Les salaires n'ont jamais été aussi gros. J'ai entendu parler de patrons qui gagnent mensuellement 250 fois le SMIC chaque mois. C'est inimaginable. Nous sommes dans une société aussi où les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et la Bible en parle, verset 15. Alors l'insensé, il est pressé. Et comme il est pressé, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il court. Il court, oui, mais il ne sait pas qu'il court à sa perte. Verset 8, il court à sa perte. Et on retrouve la même expression, courir à sa perte, au verset 10, donc verset 8 et verset 10. Pour bien en souligner le danger de ne pas maîtriser sa langue, de ne pas prendre le temps de maîtriser sa langue. Je vous relis le verset 10. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Et là, c'est intéressant ce verset 10. Une caractéristique de l'insensé, c'est qu'il use de dissimulation. Il use de dissimulation et il connaît l'hypocrisie. Il dissimule ce qu'il y a dans son cœur. Il cache son jeu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il use de stratagème pour mieux tromper son prochain. Soit en parlant, en utilisant un langage faux, hypocrite, soit en se taisant. Et vous avez remarqué, il cligne des yeux. Il cligne des yeux pour se faire comprendre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un cligner des yeux à quelqu'un d'autre. Alors que vous êtes là, présent, quel effet ça fait? On a l'impression d'être mis à l'écart, on ne sait pas trop, ils se comprennent tous les deux, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il y a des échanges de regards complices qui en disent long sur les mauvaises intentions du cœur. Justement, parce qu'on ne veut pas les dévoiler avec la bouche. Et imaginons deux associés, en face, prêts à signer qui vont signer un contrat juteux. Deux associés. Les deux associés se font un signe des yeux à la signature, devant le client. Signature d'un contrat véreux par le client. Ça y est, le regard complice, il cligne des yeux, ils l'ont lu. Mais attention, parce que parfois, celui ou celle qu'on veut tromper n'est pas si naïf qu'on le croit. Il voit la supercherie. Seul Dieu voit les cœurs. Et il éclaire aussi. Il veut nous éclairer. Et quelqu'un, le client qui a vu les deux associés cligner des yeux, imaginez sa réaction. Il a dû se sentir blessé. S'il a remarqué ce clin d'œil, il a dû se sentir blessé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'échange de paroles. Il a dû se sentir mis à l'écart. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça arrive parfois. Mais attention, seul Dieu voit les cœurs. Il y a les non-dits, il y a nos silences. Et ce texte nous parle aussi d'une certaine violence, de la violence. Pourquoi souvent ce qui n'a pas été exprimé peut provoquer la violence? Et au verset 6 et au verset 11, il y a une expression qui revient deux fois, et que je vous dis, la violence couvre la bouche du méchant. La violence couvre la bouche du méchant. Et je vais relire le verset 11 et je vais lire le verset 12 à la suite. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La violence couvre la bouche des méchants. La méchanceté et la haine, où est-ce qu'ils naissent d'abord ? Ils naissent d'abord dans le cœur. Et comment est-ce qu'ils vont se manifester ? Ils vont se manifester par la violence. Ça peut être une violence verbale, ça peut être une violence physique. Ils vont se manifester par des querelles. Et très souvent, c'est ce qu'on constate chez les jeunes, mais pas seulement. La violence, c'est le langage de ceux qui n'ont pas su trouver les mots pour régler le problème. Qui n'ont pas su trouver les mots. La psychologie moderne le reconnaît. La Bible le disait bien avant qu'il y ait la psychologie moderne. Ils n'ont pas su trouver les mots. Et ceux qui s'expriment par la violence, eh bien, ils sont prisonniers d'eux-mêmes. Parce que ils n'utilisent pas les mots, ils utilisent la violence. Et inversement, la violence va leur fermer la bouche. C'est ce que dit le verset 6 et 11. La violence couvre la bouche des méchants. C'est un cercle vicieux qui enferme la personne qui ne veut pas ou qui ne peut pas exprimer avec des mots ce qu'il faut exprimer. Ils ne savent pas quoi dire quand ils comparaissent en jugement. Les violents en parole ou en acte, ils sont dans une impasse. Ils sont prisonniers d'eux-mêmes dans un cercle vicieux. Si cette haine dans leur cœur ne s'exprime pas par la violence, eh bien, elle peut aussi se dissimuler derrière des paroles mensongères, des paroles de mauvaises paroles. Regardons le verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répand la calomnie est un insensé. Alors vous avez vu, l'un dissimule sa haine par des paroles flatteuses et mensongères. Et ça, c'est de l'hypocrisie. Mais attention, on peut bien tromper les hommes, mais pas Dieu, qui sont des cœurs qui voient ce qui est caché. Donc d'un côté, l'un va dissimuler sa haine par des paroles flatteuses. D'un autre côté, l'autre va donner libre cours à sa haine sans réfléchir, par des calomnies, par du commérage, par des mensonges. Attention, là aussi. Et vous savez, il n'y a pas que dans le monde que ça arrive. Que Dieu nous pardonne, ça arrive aussi dans les églises, parfois. Mais rappelons-nous que critiquer un frère ou une sœur dans la foi revient à reprocher à Christ de l'avoir choisi, de l'avoir intégré dans son église. Ça peut arriver aussi de critiquer une certaine dénomination d'église. Vous savez que le paysage évangélique, il y a beaucoup, beaucoup de dénominations, on est différent. Mais attention, là aussi. Parce que si nous critiquons une certaine dénomination d'église, eh bien, ça revient à critiquer l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Et critiquer l'épouse, c'est critiquer l'époux qui a choisi l'épouse. C'est critiquer Jésus. Alors, même si parfois nous sommes déçus par telle dénomination, par tel frère, par telle sœur, rappelons-nous que le Seigneur n'en a pas fini avec nous et qu'il construit son Église et que son Église, c'est son épouse. Il l'amènera parfaite quand il en aura fini avec nous. Ça nous invite aussi à prier les uns pour les autres, parce qu'on peut bien sûr, parfois, se heurter, se blesser dans l'Église. Alors, deux attitudes possibles, enfin trois plutôt. Laquelle choisir ? Dissimuler sa haine dans son cœur, la dévoiler par la violence, ou alors en parlant mal, par des mensonges ? Laquelle choisir ? Bien sûr, aucune des trois, aucune. Toutes les trois sont des péchés condamnables. Mais alors là, on est dans une véritable impasse. Comment sortir de cette impasse ? Humainement parlant, c'est impossible. Mais grâce à Dieu, c'est possible. Et je vais y revenir. Et puisque c'est dans le cœur que tout commence, il faut un véritable changement de cœur. Et nous ne pouvons pas changer notre cœur. Seul Dieu peut le faire. Je vais y revenir. Alors, une autre technique que certains utilisent, c'est parler beaucoup. On parle beaucoup. Mais parler beaucoup ne résoudra pas non plus le problème. Verset 19, je vous le lis. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et oui, plus on parle et plus le risque de péché devient grand. Et plus on va devoir s'excuser parce qu'on a divulgué des secrets. Ouh là là, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas dire. Ou alors parce qu'on a calomnié quelqu'un. On s'est laissé entraîner dans la calomnie. C'est tellement facile. Ou alors parce qu'on a exagéré la vérité. Et on s'est senti obligé de parler tout le temps. Vous avez remarqué comme parfois on se laisse entraîner par nos paroles. Et même celui qui a beaucoup de connaissances, il peut parler beaucoup. Mais attention, quelle est l'intention là? Ça peut être pour impressionner. Même celui qui a beaucoup de connaissances peut parler beaucoup, sans réfléchir, inconsidérément, juste pour impressionner. Pour, comme on dit, étaler sa science. Mais c'est être un insensé. Imaginons, vous êtes à la pharmacie, vous demandez quels sont les effets du médicament au pharmacien, alors il vous explique. Sauf qu'il peut avoir un langage très savant pour vous expliquer de quoi est formé ce médicament avec la composition chimique. Mais vous n'êtes pas pharmacien, vous n'y comprenez rien. J'aurais du mal à le suivre. Au lieu d'utiliser un langage qui est accessible. Je ne vous apprendrai pas non plus qu'aujourd'hui nous sommes dans une société où le silence n'est pas le bienvenu. Vous allumez la radio, il y a de la musique dans les supermarchés. Il y a des chaînes qui ne font que diffuser d'informations 24 heures sur 24. Le silence n'est pas le bienvenu. La télévision, elle n'est jamais silencieuse. Elle réclame l'exclusivité, elle parle tout le temps. Elle se tait seulement quand on l'éteint. Et c'est pas facile de parler en famille lorsque la télé est allumée. Il faut savoir l'allumer. Je dis pas que tout est mauvais, mais il faut savoir l'allumer, il faut savoir aussi l'éteindre. Et puis, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de redécouvrir les vertus, les joies de quelques moments de silence dans notre monde si bruyant? Parce que Dieu parle aussi dans le silence qui est propice à l'écoute de sa parole. Salomon a dit dans le livre d'Ecclésiaste, il a dit en chapitre 3, verset 7, « Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. » Voilà donc le profil de l'insensé d'après la Bible. Alors quelle est son issue, le sort de l'insensé, quel est-il? Regardons les versets 21, c'est pas réjouissant. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. La mort spirituelle, avant la mort physique bien sûr. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Le stupide, lui, il n'aide personne, contrairement au sage. Mais le stupide, il attire une condamnation sur lui-même et même des coups sur son dos, verset 13, l'expression du verset 13. Et le stupide, eh bien, il risque de mourir prématurément par un besoin non comblé, celui de la parole et de la réflexion. Et le stupide, il s'est affamé lui-même par manque d'enseignement. Et comme l'a dit quelqu'un, j'ai pas noté son nom, mais voici ce qu'il a dit. Le bien se nourrit et nourrit les autres. Le mal est incapable de se maintenir en vie. C'est donc dans le cœur que tout commence. Maintenant, voyons le cœur et la langue du sage. Et comme pour l'insensé, eh bien c'est dans le cœur que tout commence pour le sage. Mais il prend un chemin tout autre. Mon deuxième point, le cœur et la langue du sage. Le verset 2, je le relis. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Le cœur du sage, une des caractéristiques principales, c'est qu'il est enseignable. Et ça, c'est valable quel que soit son âge, quel que soit son âge. On doit de rester enseignable, qu'on soit jeune ou vieux. Le cœur du sage, il est prêt à chercher la vraie sagesse, là où elle se trouve, c'est-à-dire en Dieu. Et il a compris, le sage a compris que la vraie sagesse, elle se reçoit. Elle se reçoit pour être mise en pratique. La sagesse, rappelons-nous-en, elle n'est pas innée, elle s'apprend. Et donc ça nous demande des efforts de chercher, de la chercher en Dieu, et de chercher Dieu en lui-même. La vraie sagesse se trouve en Dieu seul. Et donc ça prend du temps. Et le sage, il le sait que ça prend du temps. Et donc il va prendre ce temps. Il va prendre ce temps avant de prendre une décision importante qui peut conditionner tout le reste de sa vie. Le sage, contrairement à l'insensé, il ne court pas. On a parlé de marcher ce matin. Le sage, il marche. Et il marche avec assurance parce qu'il a pris le temps de recevoir l'instruction. Regardez le verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Autre caractéristique du sage, il marche, il ne court pas. Et il ne court pas pour s'enrichir. parce qu'il sait, verset 22, que, je vous cite le verset 22, je vous le relis, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il ne court pas pour s'enrichir, contrairement à l'insensé. Et aussi, contrairement à l'insensé qui a une langue débridée qu'il ne maîtrise pas, l'insensé qui parle sans retenue, le sage, lui, il sait attendre avant de parler. Regardez le verset 14. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Les sages tiennent la science en réserve. Ça veut dire qu'il y a des silences qui sont sains, S-A-I-N et S-A-I-N-T. La dissimulation, le silence n'a pas forcément un sens négatif. Ne pas dire ce qu'on pense, c'est pas forcément de l'hypocrisie. Toujours ce qu'on pense. Au contraire de l'insensé qui dissimule le mal dans son cœur et qui veut toujours étaler sa science pour se faire remarquer, eh bien le sage, lui, il va dissimuler sa connaissance. Il va tenir sa science en réserve. Pourquoi ? Parce qu'il tient compte de la personne qu'il a en face de lui. Par respect pour l'autre, pour ne pas l'écraser. Parfois, on peut se sentir bien petit face à une personne qui en sait beaucoup, mais le sage, il sait, il en sait, il va tenir sa langue en réserve, pour ne pas écraser l'autre, pour garder une relation équilibrée avec l'autre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut ne jamais parler de ce qu'on sait ? Bien sûr que non. Simplement, comme dit le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Le sage va montrer, il va choisir le bon moment et le bon endroit. Et les bonnes personnes, à qui les dire. Et les bonnes paroles sur tel ou tel sujet. Il va choisir le bon moment, le bon endroit, les bonnes personnes et les bonnes paroles. Il va choisir le sage. Il ne va pas parler ou agir sur l'impulsivité. C'est ce que dit le verset 20. Il compare la langue du juste à un argent de choix. Regardez le verset 20. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de chose. Alors, eh bien, on n'est pas obligé de toujours dire ce qu'on pense à tout le monde. Choisir le moment, choisir le lieu, choisir les personnes, choisir les paroles. Et ce n'est pas péché que de ne pas dire tout ce qu'on pense. Le sage, donc le juste, hein, qui a pris le temps de recevoir la sagesse, puisqu'elle se reçoit, il va en être le premier bénéficiaire. Il va en être le premier béni pour sa vie, à condition bien sûr qu'il la mette en pratique. Et quand on reçoit la sagesse, Salomon elle a reçu la sagesse, sauf que au début ça allait, mais à la fin il n'en a pas fait bon usage. À nous de la mettre en pratique avec l'aide du Seigneur. La sagesse, on la reçoit pas pour se glorifier. Mais lorsque Dieu nous donne la sagesse, nous la recevons, elle n'est pas faite pour être gardée que pour soi. La sagesse que nous recevons, elle est faite pour être donnée aux autres, pour être partagée. C'est dans la nature même de la sagesse que d'être partagée. La sagesse ne se garde pas pour soi. Contrairement à l'insensé qui est égoïste, qui ne vit que pour lui, le juste, lui, il est tourné vers les autres. Et sa bouche profite aux autres aussi bien qu'à lui-même. C'est ainsi que il est apte à diriger les gens. Par ses paroles, le sage, le juste, il a même un rôle de berger et il dirige beaucoup de personnes de la même manière qu'un berger dirige bien son troupeau. Je vous relis le verset 21. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Alors là, on est sur un principe clé, c'est la communication. Communiquer. Bien communiquer, c'est essentiel pour bien diriger. Et quand j'entends bien communiquer, c'est pas seulement par mail, c'est pas seulement par SMS, c'est pas seulement par les réseaux sociaux. Bien communiquer, ça veut dire aussi se voir en présentiel, prendre le temps pour s'encourager, et c'est d'autant plus vrai en église. Pourquoi ? Parce que bien communiquer, ça prend du temps. Et aujourd'hui, on veut gagner du temps, alors qu'en fait, on n'est pas plus avancé. Au contraire, on recule si on ne prend pas le temps. Bien communiquer, c'est essentiel, aussi bien pour la bonne santé d'un couple. Les deux époux, mieux ils communiquent, mieux ils se comprendront. Il peut y avoir des malentendus dans les couples, pour enlever les malentendus. Bien communiquer, c'est aussi vrai pour les couples que pour la bonne marche d'une église, que pour la bonne marche d'une entreprise. un patron qui est enfermé dans sa tour d'ivoire, qui ne communique pas avec ses employés, qui ne fait que donner des directives parce qu'il n'a pas le temps, eh bien il aura de moins bons résultats qu'un patron qui prend le temps de saluer ses employés, de leur parler, de les tenir informés de la bonne marche de l'entreprise, de la santé de l'entreprise, de les tenir informés de ses projets, ou que simplement pour parler avec eux. Ce sera un investissement, ce ne sera pas une perte de temps pour leur demander comment ça va. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Alors, rappelons-nous, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et d'abord, on reçoit, et lorsqu'on a reçu, eh bien, c'est pour être en bénédiction aux autres, pour donner à notre tour. Et regardez l'image qui est utilisée, l'image de la source de vie. Regardez le verset 11. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La bouche du juste est une source de vie. Dieu s'appelle lui-même une source de vie. Vous trouvez l'expression dans Jérémie 2, verset 13. L'homme qui vit en communion avec Dieu, Dieu qui est la source de vie, il va devenir lui-même une source de vie. Il va recevoir d'abord la sagesse dans son cœur, et cette sagesse, puisqu'on ne pourra pas la contenir, elle va rejaillir. Elle va rejaillir comment ? Par la bouche. Et de cette manière, l'homme qui vit en communion avec Dieu va devenir une source de bénédiction pour son entourage, sa famille, son travail, ses proches. Parce que la bouche du juste est une source de vie, de par la sagesse que Dieu lui donne, qu'il veut nous donner à chacun d'entre nous. Cette personne, elle va être comme une fontaine. Et telle une fontaine, sa bouche sera toujours ouverte pour enseigner, pour réconforter, pour redresser les autres par des paroles de vie qu'on trouve ici, dans la parole de Dieu. Le propre d'une fontaine, c'est de couler. Une fontaine qui ne coule plus, ça devient de l'eau stagnante. Non, le propre d'une fontaine, c'est de couler. Si vous essayez de mettre un couvercle par-dessus une fontaine pour la retenir, qu'est-ce qui va se passer ? Le couvercle, il va sauter. L'eau rejaillira d'autant plus fort qu'on a cherché à la retenir. Une fontaine, elle est là pour étancher la soif. Et regardez le verset 11. Je le relis, la bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. À l'inverse, la violence couvre la bouche des méchants. La violence rend incapable le méchant de prononcer des paroles de paix et de pardonner. Leur haine est comme une eau stagnante. À l'inverse, l'amour couvre toutes les fautes. Verset 12, je vous lis le verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Alors, verset 11, la violence couvre la bouche du méchant. Verset 12, l'amour couvre toutes les fautes. C'est le même mot en hébreu. C'est le même mot. Vous voyez le contraste. Autant la violence cherche à couvrir, à étouffer des paroles de paix, autant l'amour exprime par la bouche des paroles de paix, des paroles qui vont couvrir les fautes et qui vont ramener la paix et le pardon. Pardonner une faute qui a été confessée, c'est bien. Mais dire « je te pardonne », c'est encore mieux. Le théologien Moody, qui a vécu il y a 19e siècle, je crois, voici ce qu'il a dit, que je trouve très pertinent. Il y a deux façons de couvrir nos péchés, la façon de l'homme et la façon de Dieu. Si vous cherchez à les cacher, ils ressusciteront un jour. Mais si vous laissez le Seigneur les couvrir, ni le diable, ni l'homme ne pourront jamais les retrouver. Je le relis parce que je trouve que c'est... Ça fait beaucoup de bien d'entendre ça. Il y a deux façons de couvrir nos péchés. La façon de l'homme et la façon de Dieu. Si vous cherchez à les cacher, ils ressusciteront un jour. Mais si vous laissez le Seigneur les couvrir, ni le diable, ni l'homme ne pourront jamais les retrouver. Alors, avant d'aborder mon troisième et dernier point, dans le livre des Proverbes, il n'y a que deux catégories de personnes. Le sage et l'insensé. Le sage et le fou. Le juste et le méchant. Il n'y a pas de troisième catégorie intermédiaire. Par conséquent, on est soit dans une, soit dans l'autre. Dans quelle catégorie vous trouvez-vous ? Et que vous qui puissiez répondre, la mauvaise nouvelle que nous étions tous du côté des insensés lorsque nous ne connaissions pas Dieu. Nous étions tous du côté des insensés en menant notre vie sans Dieu que nous ne connaissions pas avant que nous connaissions Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que, mon troisième point, la parole de Dieu vient au secours de notre cœur et de nos paroles. Si vous n'y êtes pas encore, ceux qui écoutent, eh bien vous pouvez passer du côté des sages, des justes, selon la Bible. Comment passer du côté, du bon côté ? Eh bien, pas par vous-même, vous n'y arriverez pas. Mais simplement en recevant la sagesse divine. Et recevoir la sagesse divine, eh bien, c'est laisser Christ, Jésus-Christ, devenir votre sagesse. Cette sagesse, c'est une personne. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, que je vous lis dans le Nouveau Testament. Donc, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Jésus, il est tout cela, pour vous qui l'avez accepté. Il est notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Donc on n'a aucun mérite. Le chapitre 10, je reviens sur le tout premier verset. Il débute par une exhortation qui est adressée aux fils. Pourquoi ? Pour enseigner les générations suivantes. Et je vous relis le verset 1 du chapitre 10. Donc, proverbe de Salomon, « Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. » Le seul, je dis bien le seul fils assez sage pour faire entièrement la joie de son père et qui n'a jamais eu de mauvaises paroles a été Jésus, parce qu'il est le fils de Dieu, le seul qui est sans péché. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 22, nous dit, en parlant de Jésus, « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Le seul à avoir une bouche, une langue parfaite, qui n'a jamais péché, ni en parole, ni en acte. Eh bien, le seul qui n'a jamais eu de mauvaises paroles, qui n'a jamais commis le moindre péché, le seul qui ne méritait pas de mourir, puisque le salaire du péché, c'est la mort, Jésus, il est la parole de Dieu incarnée. Il est appelé la parole de Dieu. Il a accepté de subir à notre place, à ta place et à la mienne, notre châtiment pour toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises actions et toutes les mauvaises paroles que nous avons pu avoir. Et regardez, Ésaïe chapitre 53, verset 7 que je vous lis. Donc Ésaïe a été écrit 700 ans avant la venue de Jésus. Et Ésaïe prophétisait donc la venue de Jésus. Et voici, prophétisait aussi le sort qui allait lui être réservé et qui était dans le plan de Dieu pour nous. Ésaïe 53, verset 7. « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Celui qui n'a jamais dit quoi que ce soit de mal, il était muet, il s'est laissé cloué sur une croix pour nous. La parole de Dieu incarnée, Jésus-Christ, elle a eu la bouche fermée à cause de nous et pour nous. La parole de Dieu, elle est devenue muette pour un temps, le temps de la croix où Jésus a été crucifié. La parole de Dieu a été brisée pour nous, alors que ce sont nos mauvaises paroles qui auraient dû être brisées. Mais la bonne nouvelle, c'est que par la foi en Jésus, par la foi dans son sacrifice à la croix et en sa résurrection, il est ressuscité 3 jours après sa mort. Tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, eh bien, Jésus devient notre justice et notre sagesse. Et à partir de là, nous pouvons rendre muettes toutes nos mauvaises pensées, toutes nos mauvaises paroles. Parce que lui, qui n'a jamais eu la moindre mauvaise parole, une fois qu'on l'a reçu, eh bien, on devient capable de contrôler notre bouche parce qu'on a reçu la sagesse. On peut donc remplacer nos mauvaises paroles par des paroles édifiantes. Et ces paroles, eh bien, non seulement la sagesse se reçoit, mais lorsqu'on la reçoit, eh bien, ces paroles vont, tel un fruit, produire elle-même de la sagesse chez les autres. Comme un fruit, parce que la grâce s'est posée sur nos lèvres. Je relis les versets 31 et 32. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Et verset 32, les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Alors vous voyez le cercle vertueux de la sagesse. La sagesse commence par se recevoir dans le cœur. On se repent de ses péchés, on demande à Jésus de venir dans notre cœur. Puis cette sagesse, elle va s'exprimer par la parole. Et puis les lèvres produisent d'elles-mêmes la sagesse, comme un fruit. La sagesse, elle va produire du fruit. On la reçoit, on porte du fruit, et à notre tour, quand on ouvre, quand on utilise la sagesse qu'on a reçue par notre bouche, eh bien elle va produire la sagesse autour de nous. Alors que Dieu notre Père nous aide à bien gérer nos paroles et nos silences, pour que nous soyons des fils et des filles sages qui fassions sa joie par Jésus-Christ son Fils, lui qui a fait toute sa joie. Amen. Je vais prier. Seigneur, quelle grâce tu nous as faite. Quelle grâce, Seigneur. C'est vrai que bien souvent on se retrouve, Seigneur, comment nous étions, comment parfois nous sommes encore. Mais merci parce que, Seigneur, tu es venu pour justement nous transformer, nous changer. Changer notre cœur, parce que c'est là que tout commence, Seigneur. Et ensuite, Père, eh bien, voilà. Tu veux qu'on ait des bonnes paroles, des paroles de justice, de vérité, qui redressent, qui soient des bénédictions pour notre entourage, des paroles qui produisent la sagesse. Et c'est ce que je te demande pour chacun d'entre nous, Seigneur, pour ton Église. Merci Seigneur, parce que tu t'es tu, Seigneur, lorsque tu as été mené comme un agneau qu'on mène à la boucherie, lorsque tu t'es laissé crucifier sur la croix. Seigneur, tu n'as pas résisté lorsque tu t'es laissé mener à la croix. Et Seigneur, merci que nous nous rappelions que nous pouvons avoir, Seigneur, cette victoire sur nos mauvaises paroles, mauvaise pensée, mais c'est en toi seul, Seigneur. C'est toi qui es notre sagesse. Et merci parce que tu veux nous aider, Seigneur, à cela. Alors qu'on fasse toute ta joie, Seigneur, avec toi, Seigneur, dans tout ce que nous sommes, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Merci de bénir ton Église ici, Seigneur, et ailleurs aussi, partout où on s'assemble pour te célébrer. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.
Amen. Amen.